Bonjour à toutes et à tous. La totalité de la France métropolitaine a expérimenté un couvre-feu avancé hier soir à partir de 18h. La situation doit durer au moins 15 jours et pourrait être prolongée si la situation sanitaire ne s'améliore pas. Un couvre-feu qui n'a pas été respecté hier soir par une centaine de personnes du côté de Grenoble. La police est intervenue vers 21h pour mettre fin à une soirée. Trois personnes ont été interpellées pour violence, dont une soupçonnée d'avoir organisé la soirée. Les vaccinations contre le coronavirus, elles se poursuivent. Près de 413 000 personnes ont été vaccinées en France. Et dès demain, la campagne sera élargie aux plus de 75 ans et aux personnes à la santé fragile. 833 centres en tout accueilleront des patients. De son côté, la Réunion a détecté sur son territoire un premier cas du variant sud-africain. Le patient est hospitalisé. Il est arrivé à la Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire en provenance des Comores. À moins de 3 semaines des vacances d'hiver, le PDG du Club Med demande au gouvernement de permettre l'ouverture des stations de ski. Dans un entretien au journal du dimanche, Henri Giscard d'Estaing appelle à sauver la montagne du désespoir. Dans 3 jours, le gouvernement doit donner sa réponse aux professionnels du secteur pour permettre ou non le fonctionnement des remontées mécaniques suivant la situation sanitaire. En Afghanistan, 2 femmes juges travaillant pour la Cour suprême ont été tuées par balle ce matin à Kaboul. Depuis plusieurs semaines, le pays est secoué par l'assassinat ciblé de personnalités afghanes. Suite de la 20e journée de Ligue 1 de football aujourd'hui, 6 affiches au programme, notamment Lyon-Metz. Lille, de son côté, accueillera Reims. Le match Lorient-Dijon, lui, est annulé en raison de cas de coronavirus chez les Bretons. Et hier soir, lors de cette 20e journée, Nîmes s'est imposé au Vélodrome de Marseille 2-1. Le PSG, lui, a battu Angers 1-0. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à notre écoute.
Société Générale vient de lancer une nouvelle offre assurance auto. On en parle aujourd'hui avec Olivier, expert assurance Société Générale. Bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi cette assurance auto est-elle différente des autres ?
Bien, c'est avant tout une assurance modulable avec un contrat qui répond exactement à vos besoins. Société Générale vous propose 5 formules personnalisables et des options de protection renforcées, comme par exemple l'assistance même en bas de chez vous. Vous payez uniquement ce pour quoi vous souhaitez être couvert.
Très bien. Et alors pour la souscription ?
Devis, contrat, tout se fait sur le site ou l'appli Société Générale, mais aussi, bien sûr, avec votre conseiller, en agence ou par téléphone.
Bien sûr.
Et si en plus vous avez financé l'achat de votre véhicule chez nous, on prend en charge jusqu'à 6 mensualités en cas de sinistre important. C'est le plus tranquillité.
Ça, c'est l'avantage de prendre son assurance auto dans sa banque, non ?
Tout à fait.
Eh bien, merci Olivier.
Merci à vous.
On en parle. Retrouvez toutes les informations sur societegenerale.fr ou en agence. Société Générale est un intermédiaire d'assurance immatriculé auprès de l'ORIAS.
Toyota. 3, 4, 5, 6.
Oh non, rue de Belleville.
J'achète. Tiens, 70.
Ah non, t'es gentil, mais ça coûte 100.
Oui, mais je suis en Toyota Aygo.
Et alors ?
Donc j'ai 30% de remise.
Quoi ?
Oui, 30%.
Pendant les Lucky Days Toyota et à l'occasion des 85 ans de Monopoly, profitez d'une remise immédiate de 30% sur la Toyota Aygo.
Toyota.
Offre réservée aux particuliers non cumulables dans le réseau participant sur une sélection de véhicules en stock identifié. Conditions sur toyota.fr. Porte ouverte ce week-end. Lucky Days, jour de chance.
Carrefour. Chaque semaine chez Carrefour, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, les oranges feuilles à indication géographique protégée sont au prix imbattable de 1,19€ le kilo. Et si malgré tout vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Catégorie 2, variété New Hall, origine Portugal, modalité sur carrefour.fr.
Mercedes-Benz. Entrez, prenez place, vous avez 4 heures.
Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche.
Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes ? Surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installé confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée.
Vous cherchez une location d'appartement ? Connaissez-vous la location meublée ? MGI, spécialisée en location meublée, vous propose de superbes appartements neufs et entièrement équipés, situés au lac de Créteil. De la petite cuillère aux sèche-cheveux et même de la télé à écran plasma, tout est compris. Alors, succombez au plaisir de poser vos valises et vous sentir tout de suite chez vous. Appelez vite au 01 45 10 16 80. Oui, le 01 45 10 16 80. MGI, une autre vision de la location.
Tu lui donnes quel âge à Mamini ?
Je sais pas, 2 ans ?
Elle en a 6, mais c'est que j'en prends soin, moi.
Avec le réseau Mini Service, profitez de toute l'expertise des techniciens pour l'entretien de votre Mini et préservez-la pour longtemps. Votre Mini a plus de 6 ans ? Avec l'offre Avantage 6+, bénéficiez toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 février, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Mini Service, des experts dédiés à votre Mini. Voir conditions et réseaux participants sur mini.fr.
On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama.
Alors, cette nouvelle voiture ?
Dernièrement, j'en profite pas beaucoup. Et elle me coûte quand même cher.
Vous savez, chez Groupama, rouler peu vous donne droit au tarif petit rouleur, sans compromis sur les garanties. Et en ce moment, on vous offre jusqu'à 250 euros si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance.
Ah, enfin une bonne nouvelle !
Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama. La vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Ils équipent aujourd'hui nos voitures à vivre comme Renault Capture hybride rechargeable.
Venez le découvrir ce week-end pendant le rendez-vous e-tech à partir de 239 euros par mois avec EasyPack. Pour Capture Intense hybride rechargeable, LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 3 500 euros, déduction faite du bonus écologique de 2 000 euros et de 2 500 euros de prime à la conversion sous condition d'éligibilité. Offre sous condition de reprise, entretien, garantie et assistance inclus pendant 4 ans. Jusqu'au 31 janvier, si Cordiac, voir Renault.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie supermarché.
Allô patron, on les arrête plus.
Lidl ?
Eh ben oui, dès demain, les deux pavés de saumon ASC avec peau et sans arête sont à 4,49€ les 280 grammes.
4,49€ les deux pavés de saumon.
Ah oui, et ils sont à moins 16%.
Là t'arrêtes.
Sans arête, oui.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 16,04€ le kilo, élevé en Norvège, offre valable jusqu'au mardi 26 janvier. Retrouvez en permanence du poisson sauvage MSC, frais et surgelé, et découvrez nos poissons ASC issus de l'aquaculture responsable. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Nouvelle Dacia Sandero. Nouveau design. Nouveaux équipements comme l'écran multimédia 8 pouces avec réplication smartphone, la carte main libre et la climatisation automatique. Et toujours à partir de 3 euros par jour, soit 90 euros par mois.
Venez découvrir Nouvelle Dacia Sandero pendant les jours plus simples du 14 au 18 janvier dans le réseau Dacia. Pour Sandero Access SCE 65, LLD 61 mois, 60 000 km. Réservé aux particuliers jusqu'au 28 février, si à Cordiac. Équipement disponible selon version, de série ou en option, voir Dacia.fr.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós para mais uma passagem de nível neste domingo, dia 17 de janeiro de 2021, ainda com o recolher obrigatório. O nosso primeiro tema vai ser as eleições presidenciais em Portugal. Dispositivo, vamos conhecer, dispositivo de voto presencial na área consulado de Paris. A África Diáspora vota nos dias 23 e 24. O nosso convidado será o seu consul-geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira. Depois voltaremos ainda à Covid, mas de outra forma, a falar da vacina. Será que podemos fazer o balanço entre o benefício e o risco? E qual é o verdadeiro peso dos efeitos secundários? É isso que vamos tentar a saber com Didier Lambert, presidente da Associação E3M, Entrée de malade de myofascite à macrophage. Depois, um livro, En temps de guerre aux soldats et aux femmes de mon pays, Portugal 1914-1918, de Ana de Castro Osório, publicado pelas edições L'Armatan. A nossa convidada, uma professora universitária que traduziu a obra, Fátima de Castro. E depois, iremos falar das edições Les Compete, que este ano festeja o seu 30º aniversário. Uma editora que sempre deu um grande destaque à literatura e poesia portuguesas. A nossa convidada será a cofundadora Ciliane Sambol. Mas para já, vamos até Paris. Sr. Consul-Geral, antes de mais, muito boa tarde.
Ora, boa tarde. Muito a todos os que nos estão a ouvir.
Muito obrigado por estar connosco. Ora, a área consular de Paris é imensa, imensa, mas precisamente o intuito desta entrevista é sabermos um pouco mais o dispositivo que organizou para o voto presencial. Talvez vamos começar por dizer onde é que há assembleias de voto.
Ora, muito bem, olha, como já referiu, as eleições têm lugar no estrangeiro nos dias 23 e 24 de janeiro, que corresponde ao próximo fim de semana. Os locais de votos estão abertos desde as 8 da manhã até às 19 horas, é isso que determina a lei e é isso que nós vamos fazer. Como calcula, estes últimos dias têm sido de preparação deste processo eleitoral, não é uma tarefa pequena, porque nós temos atualmente 247.707 inscritos nos cadernos, o que é, como compreende, um número apreciável, não é? E que significa a 10 pessoas por página, muitas folhas de cadernos eleitorais que estão agora, neste momento, a ser feitos, não é? Quando me pergunta sobre a questão dos locais de voto, pois muito bem, nós vamos ter 5 mesas abertas em Paris, no consulado, nos espaços do consulado-geral, vamos ter uma mesa aberta em Tours e uma em Orléans, nos locais dos nossos consulados honorários. Ora bom, essa distribuição não é por acaso, ela resulta da existência de cadernos eleitorais. Portanto, sem que existam cadernos eleitorais independentes, não se podem abrir espaços para votar. E por conseguinte, os cadernos eleitorais que nós dispomos correspondem, de facto, a esses locais onde nós vamos fazer a votação. Temos uma situação ainda, enfim, temos um caderno de Rouen, portanto, teoricamente poderíamos abrir um local em Rouen, o que aliás gostaríamos muito que acontecesse, mas sucede que nós, para podermos pôr o dispositivo a funcionar, temos que ter espaços que sejam preferencialmente nossos e, sobretudo, temos que ter uma ligação informática ao MNE. Ora, isso só sucede se nós tivermos realmente locais onde podemos montar isso, o que não se verifica em Rouen. Daí que os poucos, felizmente toca pouca gente, porque os inscritos em Rouen eram um pouco mais de 5 mil, e portanto nós acabamos por ter que abdicar dessa situação e nos reconduzirmos a um formato que aliás tem sido seguido no passado e que é por conseguinte essas 5 mesas em Paris e mais 2 locais de voto, um em Tours e outro em Orléans.
Mas o seu conceito significa, por simplesmente, se houvesse mais meios tecnológicos, era possível abrir outras mesas de voto, não? Isso significa, de uma certa forma?
Não necessariamente, era preciso que os cadernos eleitorais, que se passassem a estabelecer cadernos eleitorais mais fracionados, não é? Para diferentes zonas. Mas com uma própria, digamos, construção dos cadernos eleitorais ficou dependente da rede consular, não admira que nós não tenhamos, não seria execuível, quer dizer, nós ainda que tivéssemos cadernos eleitorais para cada pequena ou média localidade, depois não teríamos suporte para isso, não é? Até porque também não teríamos recursos humanos para mobilizar e até lhe digo mais, inclusive se calhar não conseguiríamos formar as mesas de voto, não é? Porque as mesas de voto implicam sempre pelo menos 5 pessoas. E portanto, digamos que há um limite físico para aquilo que se pode fazer. Claro que me dirá, bom, mas nós temos portugueses espalhados um pouco por toda a França e por conseguinte seria razoável que houvesse mais, ou seria o ideal, seria que houvesse mais locais de voto. Mas recordo-lhe que só para Paris nós temos 222 mil, portanto, isso significa que dos 247 mil, 90% estão efetivamente em Paris.
Na região parisiense.
E, portanto, também será um pouco ilusório imaginar que estamos a prejudicar muita gente. Na verdade, não estamos. Estamos a ir ao encontro um bocado das características da nossa comunidade, pelo menos no que toca à inscrição em cadernos eleitorais e ao licenciamento eleitoral. Porque, repare, se nós estamos aqui a servir em Paris com 5 meses 220 mil pessoas, que são 90%, mesmo assim, 90%, digamos, de todos os inscritos, bom, de certa maneira, então, o dispositivo que vamos colocar é um dispositivo adequado às condições que efetivamente temos. Agora, não quer dizer que esta situação não possa evoluir, não é? E que nós não possamos no futuro, enfim, admitindo que haja uma boa participação, que no futuro não se pensem outras soluções que levem, digamos, as secções de voto mais próximas das pessoas. Mas para já parece-me relativamente equilibrado dos números de que falei, não é?
E, aliás, bom, entretanto, o voto, a forma de votar pode mudar igualmente, para o MCFM, isso já é outra história, a Assembleia da República e os partidos de terminar. O Sr. Consa falou há instantes, precisamente, de constituir uma mesa. Ora, normalmente, bom, são representantes, no mínimo 2 representantes, acho eu, de cada candidato que deviam estar presentes. Ora, há 8 candidatos, salvo erro, de maneira que, bom, será que os candidatos também nomearam pessoas responsáveis para estarem na Assembleia de Voto, ou então...
Repare, eu vou-lhe ser muito franco, eu acho que isso é uma questão de transparência do ato eleitoral, e é ótimo que os representados ou melhor, os candidatos à eleição possam ser acompanhados nas diferentes mesas, mas do meu ponto de vista, do ponto de vista da organização que eu tenho que pôr no terreno, eu que me preocupo essencialmente é garantir que estejam na mesa as pessoas que podem fazer o escrutínio, não é? Portanto, o presidente da mesa e os seus e aqueles que o acompanham. Isso é que é a minha preocupação e essa é que foi a minha preocupação, sobretudo em tempos de Covid-19 e com as dificuldades, enfim, as especificidades deste ato eleitoral, não é? Portanto, o facto de haver representantes, pois eu, enfim, a lei prevê essa possibilidade, eu obviamente acarinho essa possibilidade, fica ao critério daqueles que concorrem e daqueles que os representam aqui. Enfim, não tenho nenhum obstáculo a colocar, bem pelo contrário, aguardo que eles se façam representar, se assim entenderem.
Ora, Sr. Cónsul, há instantes disse que o voto vai decorrer de 18 horas até às 19, mas vai haver uma alteração na medida em que o livro obrigatório em França agora é às 18 horas, na medida em que este horário vai ser modificado, então.
Sim, é verdade que há essa condicionante. Nós, enfim, temos obviamente trabalhado sobre isso, de resto, com a incerteza toda que têm sido estes últimos dias, porque, como sabe bem, a situação está sempre a ser, digamos, alterada. Essa última variante, de facto, prejudica a votação em uma hora, admitindo e sabendo-se que todos devemos cumprir com as normas que estão em vigor no país onde residimos, não é? Portanto, aqui há, de facto, essa condicionante. Eu não quero desvalorizar a condicionante, mas também não a quero transformar num problema adicional. Porque, repare, se as pessoas têm 2 dias para virem votar, se ainda por cima a grande maioria estão a ser servidas no seu local de residência, ou quase, enfim, ou na proximidade do seu local de residência, bom, nessa altura eu julgo que é uma questão de bom senso as pessoas perceberem que deverão cumprir com essa restrição e, portanto, procurar vir votar no período muito alargado que existe para o fazer, sem prejuízo de contrariarem a limitação das 18 horas. Portanto, eu estimo que os portugueses que querem votar compreenderão e terão a noção do que o vão fazer, na verdade, até às 16 horas. A esse respeito, há duas coisas muito que eu lhe quero dizer. As secções do Bloco ficam abertas e cumprem o horário estabelecido pelas autoridades portuguesas, portanto, nós estaremos aqui até às 19 horas e, enfim, aqueles que acharem que não podem, de modo algum, fazê-lo dentro do período do confinamento, embora nós não estejamos propriamente, enfim, achar que esse seja o procedimento mais indicado, porque, como digo, contraria as disposições das autoridades francesas, a verdade é que nós daremos um certificado, um atestado, como lhe quiser chamar, de que essa pessoa veio votar àquela hora e, portanto, eventualmente ela não terá aí uma atenuante a esse comportamento. Mas eu desde já aproveito esta ocasião para alertar as pessoas que isso não me parece prática muito correta, pode trazer complicações e de facto, a oportunidade de votar ao longo de 2 dias não me parece que justifique que as pessoas venham à última da hora de votar, não é? Portanto, eu imagino que há muita oportunidade de votar, independentemente desse constrangimento de que falamos.
Ora, Sr. Consul, bastante importante, isto é para as pessoas que se vão deslocar ao Consulado, é que todas as medidas sanitárias serão respeitadas, portanto, as pessoas quando chegam, isso tudo, penso que vai haver uma sinalização, vai haver isso tudo para digamos, de uma certa maneira, dizer as pessoas...
Sim, com certeza. Essa foi uma grande preocupação. Essa foi e é e será uma grande preocupação. Não é? É evidente que nós, como aliás acontece todos os dias aqui no nosso serviço, porque temos 400 pessoas ou 500 por dia a entrarem nas instalações, é evidente que nós também mais uma vez apelamos ao bom senso das pessoas, não é? E portanto as pessoas têm que ter essa disciplina, nomeadamente no que toca ao distanciamento, enfim, eu espero que as pessoas compreendam que não devem aglomerar-se à entrada do consulado e que devem ter essa preocupação de se afastarem umas das outras, guardarem as distâncias que estão estabelecidas, não é? Pela nossa parte, nós tentamos, sobretudo, que os circuitos no interior das instalações fossem os mais respeitadores dessa preocupação. Portanto, vamos ter uma entrada e uma saída separadas, não é? De tal maneira que as pessoas se cruzem o menos possível ou não se cruzem de todo. E vamos também pedir que façam, digamos, fila, se for esse o caso, no exterior das instalações, ou seja, as pessoas serão todas conduzidas a uma recepção, que aliás corresponde à recepção que nós temos para o atendimento do público, e depois serão encaminhadas ou confirmarão o seu local de voto, que, sendo que desses cinco locais eles estão relativamente afastados uns dos outros e, portanto, como digo, não há provavelmente grande concentração para cada um deles, não é? E dessa maneira nós pensamos que vamos conseguir controlar ou minorar os efeitos negativos da pandemia. Por outro lado, também devo dizer-lhe que há proteção para os elementos que estão nas mesas, portanto, nomeadamente as máscaras, etc., e vai haver um cuidado suplementar de colocar distribuidores daqueles desinfetantes, etc., um pouco por todo lado, de maneira a que se procure garantir a existência das melhores condições possíveis, não é? É claro que isso também vai ter muito, vai variar muito conforme a afluência
é maior.
Nós verificarmos que a afluência é enorme, nós provavelmente vamos fazer alguns alertas ao longo do dia e tentando que as pessoas, por exemplo, não se acumulem excessivamente e que procurem, como digo, espaçar-se aguardando tranquilamente pela sua vez. Não é?
Sr. Consul, para terminar com esta questão da direção presidencial, votarem ao direito, mas antes de mais um dever, não?
Sim, repare, nós fizemos um apelo e fazemos sempre um apelo à participação, até porque, sendo uma reivindicação de há tanto tempo das comunidades, sendo uma forma de afirmação das comunidades e de confirmação do vínculo que as comunidades tenham ao país, pois é evidente que nós favorecemos e estimulamos e que a participação seja a mais elevada. Agora, eu também lhe posso dizer que me parece que não devemos dramatizar essa situação. Quer dizer, repare, infelizmente há cada vez maiores taxas de abstenção, é qualquer coisa que nos preocupa a todos, mas que os mais entendidos se ocupam a perceber e a tentar contrariar. Nas comunidades é natural que, porventura, essa abstenção seja mais alta, uma vez que as pessoas têm as suas vidas nos países onde se encontram e, portanto, porventura o vínculo, enfim, vai se esbatendo um pouco, e acho que nós também não devemos dramatizar isso. Agora, devemos adequar o processo eleitoral, porventura, às características da comunidade, tentar facilitar o mais possível para que as pessoas venham votar e participem assim na democracia e naquilo que tanto tempo levou a conquistar e que, por conseguinte, permite a todos escolherem quem é que vai dirigir o país, quem é que vai ocupar, neste caso, a magistratura suprema, não é? E, portanto, acho que nós estimulamos as pessoas, enfim, fica ao critério de cada um saber se pretende ou não pretende votar. A este respeito, devo dizer e posso acrescentar, ou de certa maneira recomendar, se dirijam ao site do nosso consulado de Portugal, paris.org, onde estão todas as indicações respeitantes às eleições presidenciais, nomeadamente ali o link onde poderão saber em que mês irão votar, porque se estão ou não estão inscritos nos cadernos e em que mês irão votar. Portanto, eu julgo que as condições estão criadas, tanto quanto as limitações do momento nos permitem, não é? Porque obviamente que a situação do Covid não é favorável a uma grande participação nesta eleição presidencial. Todos compreendemos isso, não é?
Sr. Consul, uma pequenina referência unicamente é que cada vez se faz mais coisas online e desta feita é inscrição, bom, talvez não seja o termo exato, de nascimento. Acho que é importante também que os nossos ouvintes estejam ao corrente dessa evolução.
Sim, com certeza. Isso é uma... Bom, vamos lá ver. Eu talvez fizesse um pequenino enquadramento que é este.
Se quiser falar.
Nós temos, como é óbvio, as práticas vão mudando, o mundo está em permanente alteração e eu sei que existe em Lisboa, e nós aqui procuramos acompanhar, uma ideia de que nós temos que preparar o futuro. E, portanto, preparar o futuro é tentar que os serviços se adequem a novas possibilidades que resultam das plataformas informáticas e de outro tipo de recursos que não existiam e que permitirão que as pessoas não tenham que se deslocar ao consulado. Nós já temos muitas pessoas todos os dias, portanto, pessoalmente também é muito útil para nós que as pessoas se desloquem menos, não é? tanto mais com esta situação que nós vivemos atualmente do Covid. Mas este processo, que diz respeito realmente ao registro de nascimento online, é um mecanismo entre vários que estão em estudo e que estão a ser, e que estão a ser afinados, digamos, no sentido de que as pessoas possam fazer em casa aquilo que anteriormente obrigaria a uma vinda ao consulado. Muitas das vezes esses modelos de atuação, esses procedimentos iniciaram-se em Portugal e depois foi necessário, como no caso do presente, foi necessário adaptá-los aos países onde os portugueses residem. E neste momento, como sabe, isso acontece com a França e com o Reino Unido e nós, pela nossa parte, informamos e fomos informando Lisboa o que é que era necessário para adaptar esse procedimento, uma vez que não há necessária coincidência nos procedimentos em Portugal e aqueles que se verificam em França. E nós temos que respeitar, naturalmente, a maneira como se apresentam as coisas nos países onde nós nos encontramos. E, portanto, o que é que foi necessário? Foi necessário identificar qual o percurso que se faz no registro do nascimento e agora sim já é possível, nas condições que eu vou referir adiante, já é possível que os pais o façam online. Porquê? Porque conseguem obter das MRIs o documento que no fundo confirma o nascimento daquela criança, o mesmo documento que trariam ao consulado, o resto podem sempre trazer, não é? E que marca a existência daquela criança. Agora, o que importa notar é que, como por questões até de segurança, isso vai acontecer quando apenas os dois pais são portugueses e quando a criança tem menos de um ano, ou seja, tem que ser feito esse processo logo a seguir ao nascimento, e portanto damos um ano para que isso suceda, mas provavelmente as pessoas vão fazer isso de imediato, não é? Porque toda a gente quer registar os seus filhos no mais rápido lapso de tempo. Ora, um dos problemas que se colocava, como digo, e coloca sempre, é um problema de segurança. Há garantias que nós queremos ter, não é? Porque é uma situação particularmente sensível, mas foi criado um sistema em que ambos os pais, e sendo ambos portugueses, confirmam que estão ambos envolvidos nesse processo, nomeadamente através de um SMS que o segundo pai confirma a situação apresentada pelo primeiro. Portanto, há uma garantia de que ambos os progenitores estão a fazer esse processo em paralelo, não é? E qual é que é a enorme facilidade? Bom, a enorme facilidade é que recebem, no limite, recebem em casa a certidão de nascimento da criança, não é? Portanto, deixam de ter que se deslocar ao posto consular. Agora, há aqui umas condicionantes, porque, veja, a situação oferece algum... Enfim, é uma situação que não se pode tomar de ânimo leve, e, portanto, obviamente, há aqui uma condicionante, que, de resto, seria talvez mais algumas palavras, que é a chave digital ou cartão de cidadão com leitor de cartões e carta PIN. Ou seja, porquê? Porque a pessoa tem que se autenticar. Ou seja, este sistema funciona e funciona bem, já temos alguns exemplos disso, já temos alguns casos concluídos, mas é preciso que haja garantia e, portanto, a pessoa terá que se identificar neste processo, obtendo a sua chave digital no autenticação .gov.pt e depois no site da Justiça, com essa chave digital, conseguir obviamente demonstrar que é bem aquela pessoa e que é bem aquele cidadão que pretende registrar o seu filho. Né? Obviamente não ia ser assim, senão cairíamos numa situação que ninguém controlava, não é?
Sr. Cónsul, eu penso que é um tema que iremos abordar com mais tempo, após que temos que de dar exemplos, nesse caso nem que eu vou ao consulado ver como é que as coisas se processam, acho que é bastante importante conhecer isso tudo e podemos desenvolver isso nas próximas semanas. Sr. Cónsul João de Portugal em Paris, muito obrigado e esperamos agora que a comunidade e aqueles que estão na região de Paris estejam presentes ao dia 22 ou dia 23 para ir a votar. Muito obrigado, Sr. Cónsul.
Muito bem. Bom dia, boa tarde para si. Assim seja. Obrigado.
Obrigado. E agora uma pequena pausa e depois vamos falar da Covid e da vacina. Vamos um bate-papo ou um instrumentalzinho. Ali vem. Thank you.
Et on vient au direct. Vaccin Covid et balance bénéfice-risque, le vrai poids des effets secondaires. Avec nous, pour nous parler de Covid, mais également du vaccin, on a le président de E3M, entraide, association d'entraide aux malades myofascites à macrophages, Didier Lambert, bonjour.
Bonjour Arthur Sylvain.
Merci d'être avec nous. Alors, bon, il y a eu un article qui est paru à Mediapart, justement à ce sujet, aluminium et vaccin. Les médias doivent aussi se baser sur des études scientifiques solides. Mais déjà, alors, il y a une critique que vous faites, c'est que finalement, on n'a pas de recul par rapport au vaccin, surtout. Au vaccin, c'est que, bon, le plus connu, quoi, et celui qui est en train d'être distribué en France. Donc, manque de recul?
Oui, c'est ça. Sur les vaccins Pfizer et Moderna, qui sont donc élaborés à partir de l'ARN messager, on n'a pas de recul dans la population générale. C'est-à-dire que c'est un vaccin, c'est une méthode de fabrication qui n'a jamais été utilisée auparavant. Et donc là, on va la tester en fait en grandeur nature, bon, sachant que les essais cliniques ont tous été accélérés, bon, qui semble intéressant, mais ça, on va pouvoir y revenir. Le gros inconvénient pour nous, c'est qu'on va l'inoculer à une partie importante de la population mondiale, et on ne connaît pas un certain nombre d'éléments, et en particulier les effets indésirables sur le long terme.
Oui, parce que vous dites, bon, 60 jours, c'est pas suffisant. Des fois, les effets secondaires, ils arrivent un an, deux ans après. Bon, on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec le vaccin contre l'hépatite et qui avait de l'aluminium. Donc, pour vous, c'est trop tôt pour vacciner les gens? Il fallait attendre combien de temps?
C'est une question qui est difficile. Et bon, en général, on a souvent des positions, on entend bien dans les médias, des positions c'est tout blanc ou tout noir, et nous on est rarement dans le tout blanc ou tout noir, on est plutôt dans des positions intermédiaires, donc plutôt dans des tons de gris, je dirais. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que la Covid, on le sait bien, touche majoritairement des personnes très âgées, hein, la moyenne d'âge des personnes décédées par la Covid, c'est 81 ans. Ça, c'est un premier point. Donc, on sait que ce virus est dangereux pour les personnes très âgées. Si on estime qu'on peut prendre des risques avec des effets indésirables sur cette population-là pour essayer de la protéger, en se disant que la balance bénéfice-risque sera favorable à la vaccination, pourquoi pas, y compris avec un vaccin dont on ne connaît pas bien les effets indésirables. Mais ce qui, pour nous, est absolument essentiel, c'est qu'une information absolument honnête soit donnée aux personnes qui vont être vaccinées ou à leur entourage. Et donc, ça prend obligatoirement du temps, notamment avec des personnes très âgées. Et donc, nous ne sommes pas choqués, par exemple, par le temps qu'il a fallu pour enclencher un peu la vaccination en France.
Mais en même temps, bon, les gens qui veulent se faire vacciner, bon, oui, en principe, on va aller voir le médecin parce qu'il y a un certain nombre de contre-indications. Donc, on parle de ça. Donc, les gens sont prévenus quand même.
Il faut absolument que les gens aient toute l'information, mais sachant que l'information, elle arrive aussi un peu tous les jours. La dernière information qui est tombée, je crois que c'est hier ou avant-hier, c'est par rapport en Norvège. 23 décès ont été signalés en lien avec la vaccination. 13 d'entre eux ont été évalués. Et ce qu'il en ressort, c'est que les effets secondaires courants des vaccins ARN messager, tels que la fièvre ou les nausées, peuvent avoir entraîné la mort de certains patients fragiles. Donc ça, il faut le savoir, il faut que l'information redescende au fur et à mesure. On sait aussi, par exemple, que ces vaccins sont a priori, sont efficaces au moins sur 2 ou 3 mois pour protéger la personne, mais ce n'est pas efficace pour réduire les risques de transmission.
Oui, donc, mais ça, voilà. Oui, mais Monsieur Lambert, là, il y a toute une confusion, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, alors on dit qu'il faut vacciner dans les 3 semaines, un deuxième vaccin 3 semaines après. Notre ministre de la Santé dit, bon, on peut attendre 3 mois, 6 mois. Bon, c'est, en réalité, on ne sait rien du tout, non? Mais je ne sais pas, moi je fais l'avocat du diable.
Écoutez, nous on suit ça de près parce que bon, on n'est pas entre guillemets directement concerné en tant qu'association E3M parce qu'il n'y a pas d'aluminium dans les vaccins qui sont actuellement proposés, mais en même temps, on sait bien ce qui s'est passé pour nous et on sait bien le déni qu'il y a eu de manière générale et qu'il y a toujours d'ailleurs par rapport aux risques présentés par cet adjuvant aluminique. Donc on se méfie beaucoup des discours, de tout discours d'ailleurs. Donc on cherche toujours, nous, à retrouver des sources scientifiques. Donc nous suivons de très près ce qui se dit par rapport au vaccin Covid parce que c'est bien sûr un sujet qui nous intéresse. Et ben, il est difficile de se faire une opinion soi-même. Parce qu'on a des personnes sérieuses qui disent une chose, d'autres qui sont censées être sérieuses qui disent d'autres choses. Donc il faut vraiment aller à la source et puis passer du temps, lire des publications scientifiques. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, sur les vaccins Pfizer et Moderna, il y a beaucoup d'incertitudes, oui. Ce qu'on a appris aussi avec le lancement des vaccins, et en particulier avec des cas graves qui ont eu lieu en Grande-Bretagne, c'est que, par exemple, il ne faut pas injecter ces vaccins-là chez des personnes qui ont des antécédents d'allergie grave de type anaphylactique, ou chez des personnes qui ont des, comme on dit officiellement, des antécédents connus de réactions allergiques graves à l'un des composants du vaccin, à condition qu'on connaisse les composants des vaccins, ce qui n'est pas toujours le cas.
Oui, mais apparemment, c'est un secret d'État, ça.
Il y a beaucoup de secrets dans la fabrication.
Oui, mais finalement, justement, la fabrication. Heureusement qu'il y a un ministre belge qui a vendu la mèche, qui a donné le prix de ces vaccins.
Oui.
Les laboratoires vont se faire des fortunes, mais enfin, ça nous pose quand même un certain nombre de questions. Bon, on se demande, pourquoi est-ce que c'est pas l'État, pourquoi est-ce que ce n'est pas nous, finalement nous, à savoir le service public qui s'en charge de ça, parce que ça.
Alors là, vous savez, je vous rejoins complètement. Nous sommes complètement favorables à ce qui est enfin un pôle public du médicament, c'est-à-dire que la fabrication de tous les produits de santé, vaccins et d'autres, ne soit pas une exclusivité des entreprises pharmaceutiques. On peut tout à fait envisager d'avoir un pôle public du médicament, c'est-à-dire que les États, peut-être à un niveau, soit à un niveau national, soit à un niveau européen, fabriquent ce qui nous semble être les produits essentiels. Les vaccins font partie bien sûr des produits essentiels. Là, je vous rejoins complètement.
Oui, parce qu'il y a un gros problème. Bon, et ça, on a vu avec un certain nombre de médicaments, la base des médicaments qui viennent de Chine, de l'Inde, etc. Oui. Donc, on se trouve complètement. Bon, il y a des malades qui ont des problèmes pour avoir des médicaments, justement, parce qu'il y avait une pénurie.
Oui.
Donc, on marche vraiment sur la tête, là.
Oui, il y a des pénuries en particulier parce que la plupart des entreprises travaillent à flux tendu. Mmh. Donc le moindre pépin où que ce soit dans la chaîne de fabrication, et on est en rupture de médicaments. Donc théoriquement, il y a des médicaments à intérêt thérapeutique majeur pour lesquels les entreprises doivent faire des stocks d'une durée de 3, 4, 5 mois. Nous, on demande à ce que les stocks soient le plus long possible, évidemment, mais c'est en cours. C'est pas encore mis en œuvre et c'est maintenant au niveau européen que les choses se discutent.
Alors, il me semble que E3M se bat, entre autres choses, pour qu'il existe un dispositif de pharmacovigilance. Donc, on attend ça. Ça, c'est une proposition à vous, je crois.
Mais la pharmacovigilance, elle est très, très déficiente en France. Il y a une obligation légale. Tout professionnel de santé qui vaccine quelqu'un et qui constate un effet indésirable, que cet effet indésirable soit connu ou inconnu, doit le signaler au service de pharmacovigilance. Et dans la réalité, ça ne fonctionne absolument pas. Il y a officiellement, c'est entre 1 et 10% des effets indésirables qui sont déclarés par les professionnels de santé en général. Donc nous, notre demande, c'est qu'il y ait effectivement une refonte du système de pharmacovigilance. Il faut tout revoir avec l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, les syndicats professionnels. Il faut tout remettre à plat parce que personne ne sait le taux d'effet indésirable qu'il y a, quel que soit le médicament, et c'est particulièrement grave pour les vaccins, qui sont des médicaments de prévention. Et donc on injecte à des personnes en parfaite santé, et donc il est essentiel qu'on connaisse les risques sur lesquels auxquels on est confronté. Nous, on le voit bien au niveau de l'aluminium, par exemple. Quand on fait des campagnes de communication, les patients ont l'information et vont exiger, entre guillemets, d'avoir un diagnostic, d'avoir une biopsie pour retrouver l'aluminium au site d'injection des années après la vaccination. Mais en dehors de ces périodes où on fait de la communication, jamais les personnes peuvent imaginer que leurs problèmes de santé sont liés à un vaccin qu'ils ont reçu quelques années avant, parce qu'il y a un déficit complet d'information de la part de l'Agence du médicament.
Et d'ailleurs, il y a quelqu'un à TF1 qui a affirmé que les doses d'aluminium sont très faibles dans les vaccins et l'aluminium est éliminé de la même manière que celui contenu dans nos aliments. Bon, ça, c'est une collègue journaliste qui l'a dit.
Mais ce n'est pas la seule à le dire. dire, la plupart des journalistes le disent, parce que la plupart des leaders d'opinion le disent, et c'est une imbécilité. Voilà. Scientifiquement, c'est une imbécilité. L'aluminium qui est injecté n'est pas du tout le même aluminium qui est utilisé dans les aliments, ou etc., premièrement. Deuxièmement, il pénètre dans l'organisme, il traverse toutes les barrières de l'organisme puisqu'il est injecté dans le muscle, alors que l'aluminium qui est ingéré, lui, descend. 99,7% de l'aluminium ingéré est éliminé par les selles. Vous voyez, la 0,3% qui ensuite va dans l'organisme, dont les deux tiers sont éliminés par l'urine. Donc il y a très peu d'aluminium ingéré qui va dans l'organisme. Ce n'est pas le même type d'aluminium. Et donc le rapport... Les études scientifiques sont indiscutables là-dessus. Le rapport entre l'aluminium ingéré et l'aluminium injecté, il faudrait 1 million de fois la dose du vaccin, la dose d'aluminium du vaccin, dans le système digestif, dans les aliments, pour avoir le même effet. Donc vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. C'est une imbécilité sur le plan scientifique. Et c'est là où nous, on regrette que beaucoup de journalistes, mais parce qu'ils n'ont sans doute plus le temps de faire bien leur travail, beaucoup de journalistes prennent pour argent comptant ce qui leur est dit par des leaders d'opinion qui sont en lien avec l'industrie pharmaceutique.
Oui, mais enfin, quand on voit les chaînes de télé, ou robinets, comme je les appelle, on entend tous les sons contraires, mais enfin... Monsieur Lambert, une dernière question, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que les brevets, en ce qui concerne les vaccins, est-ce qu'ils ne devraient pas tomber dans le domaine public, parce que je pense aussi à d'autres pays, en Afrique, etc., etc., des pays pauvres, là apparemment les vaccins c'est pas pour eux, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais là aussi je suis complètement d'accord avec vous, ça concerne les vaccins mais la plupart des plupart des médicaments essentiels, bien sûr, il faut supprimer les brevets, il existe une procédure dans beaucoup de pays occidentaux, dont en France, qui s'appelle la licence d'office, c'est-à-dire que l'État a la possibilité, sur un sujet ou sur un autre, de récupérer le brevet d'une entreprise pour faire fabriquer un médicament qui est essentiel. Cette loi n'a jamais été utilisée en France. Nous, on a demandé à ce que ça soit utilisé pour remettre à disposition des vaccins sans aluminium, et le gouvernement l'a refusé à l'époque. Donc effectivement, un pôle public du médicament, ça réglerait le problème du brevet, parce que le brevet serait public.
Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils l'ont fait. Attention, aux États-Unis, justement, il y a un certain nombre de médicaments, etc., etc., que c'est l'État, et pourtant c'est les États-Unis qui sont les chantres libéralisme.
Ouais,
voilà. Bon, monsieur Didier Lambert, merci. Je rappelle, vous êtes président de l'association E3M, entraide aux malades de myofascite à macrophage. Bon, j'espère pas, si je vais me faire vacciner, que pas devenir un cobaye.
Mais je pense qu'il faut attendre un peu et qu'on ait à notre disposition, entre guillemets, les vaccins classiques, parce que ceux-là, on les connaît.
Bon, attendons. Attendons voir. Monsieur Didier Lambert, merci, à très bientôt.
Merci, Arthur. Au revoir.
Agora vamos à publicidade e depois vamos viajar durante 1914, entre os anos 1914 e 1918, com cartinhas.
Papa, tu sais pourquoi on doit dormir?
C'est pour se reposer après le travail, pour récupérer des forces et de l'énergie après la journée. Recharger ses batteries, tu vois?
Ah oui, comme la voiture.
C'est ça, sauf que nous, il nous faut toute la nuit.
oui. Et si recharger ses batteries était aussi simple et rapide que pour nos véhicules électriques? En ce moment, et jusqu'au 31 janvier chez Volkswagen, pour tout achat d'une ID.3 neuve, la borne de recharge LV EV Box et son installation à domicile sont remboursés jusqu'à 1 600 €. Voir conditions et détails de l'offre sur Volkswagen.fr.
On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama.
Alors, Paul, ce salon?
Avec la fuite d'eau, toute la peinture est à refaire. Et en plus, on va sûrement m'envoyer un expert et...
Vous savez, chez Groupama, on peut vous proposer d'être immédiatement indemnisé si vous faites les travaux vous-même. Et en ce moment, on vous offre jusqu'à 250 € si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance.
Vraiment?
Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
Toyota.
3, 4, 5, 6.
Oh non, rue de Belleville.
J'achète. Tiens, 70.
Ah non, t'es gentil, mais ça coûte 100.
Oui, mais je suis en Toyota Aygo.
Et alors?
Donc j'ai 30% de remise.
Quoi?
Oui, 30%.
Pendant les Lucky Days Toyota et à l'occasion des 85 ans de Monopoly, profitez d'une remise immédiate de 30% sur la Toyota Aygo.
Toyota.
Offre réservée aux particuliers non cumulables dans le réseau participant sur une sélection de véhicules en stock identifié. Conditions sur toyota.fr. Porte ouverte ce week-end. Lucky Days, jour de chance.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron, j'ai des nouvelles.
Des bonnes j'espère.
Eh ben non patron, désolé. Dès demain, les pommes de terre origine France en filet de 5 kilos sont à 1,99€.
1,99€ le filet de 5 kilos de pommes de terre.
Et des pommes de terre origine France, hein. Ça fait 40 centimes le kilo.
Eh ben voilà, on a tout compris.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pommes de terre de consommation, catégorie 1, calibre 40-70, traitement antigerminatif après récolte, diverses variétés selon arrivage, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Nouvelle Dacia Sandero. Nouveau design. Nouveaux équipements comme l'écran multimédia 8 pouces avec réplication smartphone, la carte main libre et la climatisation automatique. Et toujours à partir de 3€ par jour, soit 90€ par mois.
Venez découvrir Nouvelle Dacia Sandero pendant les jours plus simples du 14 au 18 janvier dans le réseau Dacia. Pour Sandero Access SCE 65, LLD 61 mois, 60 000 km. Réservé aux particuliers jusqu'au 28 février, si accordiaque. Équipement disponible selon version, de série ou en option, voire Dacia.fr.
Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Sur une barque,
c'est un super prix.
Lors d'une partie de pêche en mer,
c'est un super prix. Oh oh, ça mord.
Ou même dans le ventre d'une baleine,
c'est vraiment un super prix.
Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez.
Et vous, jusqu'où irez-vous en électrique? Avec l'Opel Corsa i, profitez de 10 000 km d'électricité offerte et roulez sans contrainte avec une autonomie exceptionnelle et une recharge ultra rapide en 30 minutes. Pendant les Opel Electric Days, faites l'expérience de l'excellence allemande à partir de 169€ par mois.
Exemple Corsa i édition à partir de 169€ par mois. Apport de 1844€ incluant la déduction de 10 000 km d'électricité. LLD 48 mois valable jusqu'au 31 janvier. Conditions sur opel.fr. Electric Days, jours électriques. Portes ouvertes ce week-end.
Domingo às 14h25 e quarta às 9h30 da manhã, esteja atento ao programa O Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian. 7P, Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cité Universitaire, entrada sob marcação.
E agora vamos ouvir a entrevista que realizamos à volta do livro Um Temps de Guerra, Soldat e a Fama de Mon Pays, Portugal 1914-1918, de Ana de Castro Osório, publicado pelas edições La Rematão. Ora, vai-se falar de feminismo, e tudo os escritos de Ana de Castro Osório foram feitos entre 1914 e 1918, é um contexto de guerra e é uma exortação igualmente às mulheres portuguesas de levantarem a cabeça, nem mais nem menos, mas enfim, explicações vão-nos ser dadas agora pela professora universitária Fátima de Castro, que traduziu a obra.
On va parler dans le livre, mais également d'une page de l'histoire européenne. Ça concerne la première grande guerre mondiale, 1914-1918. En temps de guerre aux soldats et aux femmes de mon pays, Portugal, 1914-1918. Il s'agit d'articles qui ont été écrits par Ana de Castro Osório et ça vient d'être traduit par Fátima de Castro aux éditions La Rematão. Madame de Castro, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle quand même, parce que vous avez fait des travaux universitaires qui interrogeaient le regard portugais porté sur des cultures étrangères, est-ce que c'est l'Égypte, l'Éthiopie dans les récits des découvertes. Alors, cette fois-ci, vous avez voulu répondre à une question. Pourquoi est-ce que les Portugaises n'ont-elles pas suivi le mouvement féministe au début du XXe siècle? Alors, vous avez posé la question, vous avez trouvé la réponse.
Exactement. Exactement, c'est une question qu'on me posait beaucoup autour de moi, en particulier des personnes qui avaient fait des études anglo-saxonnes ou vécu dans les pays nordiques, qui s'interrogeaient sur cette absence des femmes dans les grands mouvements du début du XXe siècle. Et donc je me suis moi-même posé la question parce que je ne m'étais jamais vraiment penchée sur ce problème. Et à force de faire des recherches, j'ai trouvé des mémoires universitaires, des articles, des livres sur la question. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ana de Castro Osório, qui est considérée comme étant une des pionnières au Portugal de l'égalité, donc de cette lutte pour l'égalité homme-femme.
Voilà, ce qu'on pourrait dire féministe, mais féministe, non, ça n'a pas la même signification voilà. Aujourd'hui et à l'époque.
Non, pas du tout, pas du tout. À l'époque, c'était vraiment la considération de la différence qu'il y avait dans la société, entre le traitement fait aux hommes, le traitement fait aux femmes. Et en fait, ce qu'elle réclamait, c'était d'avoir la même considération, les mêmes droits, c'est-à-dire pouvoir travailler. Hein. Aujourd'hui, ça semble évident, mais pas à l'époque, de pouvoir travailler, de pouvoir agir librement, de pouvoir avoir des opinions politiques, de pouvoir avoir accès à l'éducation. Un peu tout ce que dit Annette Cast ou Rosot dans ce livre, hein, qui condense vraiment sa pensée. Et donc dans ce livre, elle rajoute en plus évidemment l'aspect de la guerre, les soldats et ce qu'elle considère comme étant un abandon du Portugal envers ses soldats envoyés en France en 1917. Donc à travers toute cette réflexion féministe de l'époque, elle propose des solutions, aussi bien pour le pays que pour venir en aide et en soutien à ses soldats.
Alors il faut dire que les textes sont datés. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail, effectivement, il y avait une conception à l'époque que ça concernait les ex-colonies, etc., etc. Mais elle a écrit quelque part, au Portugal, au début du XXe siècle, la femme n'est pas respectée dans sa condition d'individu conscient et autonome. La femme est un simple complément de l'existence masculine.
Oui, tout à fait. Tout à fait, et c'est pour ça que dans tous les mouvements qu'elle va créer, hein, parce qu'elle va faire plusieurs groupes, plusieurs associations, elle va beaucoup publier. C'est une femme qui a quand même été très active pour la mise en place de la République, qui mettait d'ailleurs beaucoup d'espoir hein, dans cette République. Et on sent une certaine déception dans son livre. L'attente n'a pas été satisfaite de son point de vue. Et elle réclame effectivement à ce que les femmes soient considérées comme un élément actif de la société, et non plus comme un élément passif. Elle décrit souvent dans cet ouvrage la femme qui sert de décor un peu dans la bourgeoisie, la femme qui est exploitée dans le monde ouvrier.
Oui, la femme, c'est bon, elle ne dit pas ça directement, mais c'est un objet sexuel. Elle est là pour reproduire, entre guillemets, et pomber.
Voilà, oui, mais c'est, on va dire, entre guillemets, un peu normal dans l'état d'esprit de l'époque, puisque bon, c'est quand même une société qui est très marquée par l'Église catholique. Et donc le rôle de la femme, dans tous les pays latins, hein, pas qu'au Portugal, d'ailleurs même en France, hein, le rôle de la femme, c'est quand même en priorité la procréation et la vie du foyer.
Alors en France, avec la Première Guerre mondiale, en France, mais dans d'autres pays, aux États-Unis, mais en Angleterre, etc., etc., le fait que les hommes partent au front, ça fait que les femmes les ont remplacées dans les usines, dans les ministères, etc., etc. Et au Portugal, c'est ça aussi qu'elles demandaient à l'époque.
Tout à fait. D'ailleurs, dans cet ouvrage, elle prend beaucoup d'exemples hein, sur la France. À un moment donné, elle cite les infirmières, la bravoure des infirmières, et même d'ailleurs des infirmières allemandes. Elle cite les femmes qui remplacent les hommes dans l'administration, dans l'industrie, partout. Et elle constate qu'au Portugal, tout est arrêté avec la guerre, parce qu'il n'y a plus d'hommes. Elle dit, les tramways ne circulent plus, l'administration n'a plus personne, les champs sont en vrille. Les gens meurent de faim, alors qu'il y a quand même une main-d'œuvre qui n'est pas utilisée, c'est la main-d'œuvre féminine. Et elle réclame un petit peu dans cet ouvrage un réveil de conscience, pas seulement des politiques, mais également elle interpelle les femmes portugaises en disant mais réveillez-vous, faites appel à votre civisme, à votre patriotisme, pour que le pays retrouve sa grandeur, faire face surtout, une fois que la paix sera revenue, parce que quand même dans son livre, on sent bien que pour elle, c'est le bien hein, qui va gagner, entre guillemets, c'est pas l'Allemagne. Donc dans ce moment de paix, il va quand même falloir que le Portugal se positionne à égalité avec la France, l'Angleterre, l'Amérique. Dans l'état qu'elle décrit dans ses articles, c'est loin d'être le cas.
Alors, Fatima de Castro, une dernière question, bon, c'est une forme de constatation également, c'est que Anne de Castro-Osório, elle voit des certaines de perspectives que la guerre va amener une transformation totale de la société. Oui. Et son espoir, c'est que les femmes puissent avoir leur place, la place qu'elles méritent.
Oui, c'est ce qu'elle espère. L'histoire ne lui a pas donné raison tout de suite, en tout cas pas pour le Portugal. Hein.
Non, il a fallu attendre 1974, c'est encore.
Pas pour le Portugal, il a fallu quand même attendre plutôt 1976. Mais même dans les autres pays, si on regarde la France, elles avaient le même espoir. Et puis quand la guerre est terminée, les politiques ont dit aux femmes, bon, ben, c'était bien d'avoir remplacé les hommes, mais maintenant, allez, il faut retourner à votre rôle traditionnel. Il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que, voilà, le mouvement reprenne, qu'elle ait le droit de vote, etc. Donc, oui, elle a eu cet espoir parce qu'elle s'est dit que c'était un tel bouleversement. Forcément, ça ne pouvait qu'engendrer un bouleversement positif dans la société. Et il n'a pas eu lieu dans le laps de temps, en tout cas, qu'elle espérait, malheureusement.
Oui, et pour les hommes aussi, parce qu'on a tendance à oublier. Elle a écrit quelque part, vous les mères, n'oubliez pas que c'est vous qui éduquez vos fils. Donc elle dit quelque part, et elle donne aussi, elle dit aux gens, dit aux femmes, bon s'il vous plaît, donnez l'éducation qu'il faut à vos enfants. Bon, c'est écrit entre 1914 et 1918, il faut le dire. Fatima de Castres, merci. Donc je rappelle que vous avez traduit le livre En temps de guerre aux soldats et aux femmes de mon pays, Portugal 1914-1918, N. de Castro Osório. Merci Fatima de Castres.
Merci à vous, bom dimanche.
Merci e à bientôt.
É verdade, nós voltaremos sucessivamente dentro de 7 a 8 minutos. Música Monda, Moreninha e depois informação e para fora. Até já.
Moreninha, lentejana. Quem te fez morena assim?
Foi o sol da primavera que caía sobre mim, que caía sobre mim, que andava sem far o trigo.
Moreninha alentejana, por que não casas comigo? Casas comigo,
porque não casas com ela?
Quem te fez morena assim?
Foi o sol da primavera.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Radio Alpha, 13 horas.
Bonjour à toutes et à tous. La campagne de vaccination contre le coronavirus élargit dès demain aux plus de 75 ans et aux personnes à la santé fragile. 833 centres doivent ouvrir dans les prochains jours pour mener à bien cette campagne où pour l'heure, plus de 400 000 personnes ont reçu une première injection sur les deux requises. La Loire-Atlantique sera-t-elle bientôt rattachée à la région Bretagne? Dans une tribune parue aujourd'hui dans le JDD, 150 élus demandent au président un référendum pour proposer aux habitants du département de trancher D'après ces élus, 2/3 des citoyens seraient favorables à ce rattachement. 14 personnes interpellées en France en novembre pour des faits de pédopornographie. La gendarmerie annonce aujourd'hui avoir mené un coup de filet important pendant le deuxième confinement. 1000 contenus pédopornographiques circulant sur Internet ont été saisis. À 3 jours de son investiture, le président américain Joe Biden promet de se mettre au travail immédiatement. Il doit signer une série de décrets dès son arrivée à la Maison-Blanche, d'après son futur chef de cabinet. La capitale Washington reste en état de sécurité maximale avant cette cérémonie d'investiture. Un homme lourdement armé a été arrêté près du Capitole vendredi soir alors qu'il essayait de passer les différents points de contrôle. Il est urgent de dire que cela suffit. Les mots du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au sujet du nucléaire iranien. Dans le JDD, il demande un retour à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Un accord que les États-Unis avaient quitté sous l'impulsion de Donald Trump. Il y a quelques semaines, Téhéran affirmait avoir repris la production d'uranium enrichi pouvant servir à la composition d'armes nucléaires. Le football, 20e journée de Ligue 1 cet après-midi avec à l'instant le coup d'envoi du derby Brest-Rennes. Parmi les affiches également Lyon-Metz, coup d'envoi à 21h. Et hier soir, le PSG a battu Angers 1-0, une victoire qui permet aux Parisiens de reprendre provisoirement la tête du classement. L'OM s'est incliné à domicile 2-1 contre Nîmes. Bonne journée à notre écoute.
Lusitânia Market, o seu espaço de produtos portugueses e churrasqueira há mais de 15 anos. Lusitânia Market deseja a todos os seus clientes e amigos um feliz ano novo. Depois das festas, as promoções na Lusitânia Market continuam. Este mês, vinho Capataz Back Box 10 litros, apenas 16,50€. Moelos de frango em embalagem de 1 kg a 2,50€. Lusitânia Market, 56 Rue du Canal, em Longjumeau. Telefone 0169-204623.
Com votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Mercedes-Benz. Entrez, prenez place, vous avez 4 heures.
Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche.
Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes? Surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installé confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron, j'ai des nouvelles.
Des bonnes j'espère.
Eh ben non patron, désolé. Dès demain, les pommes de terre origine France en filet de 5 kilos sont à 1,99€.
1,99€ le filet de 5 kilos de pommes de terre.
Et des pommes de terre origine France, hein. Ça fait 40 centimes le kilo.
Eh ben voilà, on a tout compris.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pommes de terre de consommation, catégorie 1, calibre 40-70, traitement antigerminatif après récolte, diverses variétés selon arrivage, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Ça, Renza, ça tourne.
Fais voir ma présentation vidéo que tu as filmée.
Tiens.
Mais comment tu tenais la caméra? On voit que mes chaussures. Bah, t'es relou.
Enfin, mais c'est toi. Tu m'as demandé de zoomer sur ce que t'as de plus beau.
Sarenza.com.
En ce moment, ce sont les jours fabuleux. Jusqu'à moins 70% sur une sélection de chaussures et de vêtements. Voir conditions sur le site.
Et vous, jusqu'où irez-vous en électrique? Avec l'Opel Corsa i, profitez de 10 000 km d'électricité offerte et roulez sans contrainte avec une autonomie exceptionnelle et une recharge ultra rapide en 30 minutes. Pendant les Opel Electric Days, faites l'expérience de l'excellence allemande à partir de 169€ par mois.
Exemple Corsa e-Edition à partir de 169€ par mois. Apport de 1844€ incluant la déduction de 10 000 km d'électricité. LLD 48 mois valable jusqu'au 31 janvier. Conditions sur Opel.fr. Electric Days, jours électriques. Portes ouvertes ce week-end.
Les cidres de France, tout naturellement. Thierry Marx, c'est quoi pour vous un instant cidre?
C'est du partage par excellence, comme une galette des rois. Bien croustillante, accompagnée d'un cidre évidemment. Frais, à la robe dorée et agréablement pétillante. Pour un moment unique.
Ah oui.
Un cidre sec et charpentier qui va sublimer la gourmandise de notre galette pour un accord parfait.
Bon, là, c'est comme si j'avais trouvé la fève.
Ah, mieux que ça, c'est une vraie pépite.
Le cidre de France, tout naturellement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
Du lapin.
C'est qui le chef qui a fait ça?
Qu'est-ce que c'est bon!
Franchement, super idée.
Délicieux.
Eh oui, voilà ce que vous allez entendre en cuisinant du lapin. Ravioles, burgers ou nems. Le lapin s'invite partout. Le lapin, c'est remarquablement tendre. C'est sain et ça renouvelle le bout de la fourchette. Et en plus, manger du lapin, c'est aussi soutenir nos éleveurs.
Le lapin, faites-vous remarquer et retrouvez des tas d'idées recettes sur lelapinfaitesvousremarquer.fr. Il est remarquable, le patrimoine européen.
Votre BMW, êtes-vous prêt à la laisser entre n'importe quelle main ? Chez BMW Service, nos techniciens ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la marque, n'interviennent que sur des BMW et ont suivi plus de 240 heures de formation spécifique. C'est dire s'ils maîtrisent la technologie de votre véhicule. Votre BMW a plus de 6 ans ? Avec l'offre Avantage 6+, bénéficiez toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 février, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir conditions et réseaux participants sur bmw.fr.
Leclerc.
Bah dis donc, comment tu fais tes courses, toi ? C'est bien empilé, c'est carré, mathématique.
Ah, je suis juste organisée.
Bien sûr. Et tu prends des yaourts par pack de 16 ?
C'est plus économique. Là, du 12 au 23 janvier, le pack d'Activia de Danone de 16 fois 125 grammes, variété au choix, est à 4,09€. Avec 34% de tickets Leclerc, ça fait 2,05€ le kilo.
Ah oui, mathématique.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Toyota. 3, 4, 5, 6.
Oh non, rue de Belleville.
J'achète. Tiens, 70.
Ah non, t'es gentil, mais ça coûte 100.
Oui, mais je suis en Toyota Aygo.
Et alors ?
Donc j'ai 30% de remise.
Quoi ?
Oui, 30%.
Pendant les Lucky Days Toyota et à l'occasion des 85 ans de Monopoly, profitez d'une remise immédiate de 30% sur la Toyota Aygo.
Toyota.
Offre réservée aux particuliers non cumulables dans le réseau participant sur une sélection de véhicules en stock identifié. Conditions sur toyota.fr. Porte ouverte ce week-end. Lucky Days, jour de chance.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Oui, on est le dimanche 17 janvier 2021, couvre-feu oblige, maintenant c'est à partir de 18h. Bon, enfin bref, et bientôt sera le confinement à nouveau, mais enfin bref. Alors, passage à niveau, aujourd'hui, on va évoquer une maison d'édition, laquelle on l'accompagne déjà depuis la fin 1990. Je veux parler ça des éditions Les Scampettes. Sylviane Sambord, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est un plaisir de vous avoir justement au téléphone parce que tous les ans avec les rencontres littéraires, avec tout ce que l'Escampette a fait pour la culture, la poésie portugaise, bon, on va faire la liste tout à l'heure. Mais avant tout, je veux évoquer quelqu'un que nous a quitté en 2015. Je veux parler de Claude Rouquet.
Oui, alors Claude effectivement nous a quitté il y a tout juste 6 ans. Exactement 6 ans. Il a été mon compagnon de vie pendant 30 ans et il a été le créateur de la maison d'édition dont nous allons parler, donc l'Escampette. Il l'a créée en 1990, fin 90 à Bordeaux et pour publier un premier livre que j'avais décidé de faire naître suite à ma rencontre passionnelle avec le Portugal, Saveur de Porto, qui a vraiment été, la maison d'édition a été créée pour publier ce guide touristique, amoureux, culturel, littéraire, dédié à Porto, qui est paru à l'automne 1991, donc ça fait exactement 30 ans, voilà. Claude est toujours avec nous à travers la maison d'édition qui continue son aventure maintenant dans la Vienne depuis quelques années et désormais à Montmorillon, une très jolie commune au bord de la gare Tempe.
Voilà, de toute façon, on va en parler parce qu'il va y avoir quelque chose, et à moi ça me touche aussi, c'est le 12 et 13 juin, alors ça arrive au même moment qu'à Lisbonne, il y a Saint-Antoine, on va y aller. Alors, donc, Saveur de Porto 91, et puis 1992, un grand seigneur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, Édouard Lawrence avec le livre Montaigne.
Exactement, ça je dois dire que, comme beaucoup... J'ai été extrêmement touchée en décembre par la disparition d'Edouard de Lourenço. J'ai eu la chance d'être son ami, de bien le connaître, à partir de 1988, je crois que j'ai fait sa rencontre, si je me souviens bien, j'ai fait sa rencontre à Paris en novembre 88. C'était lors des Belles étrangères Portugal. Il faisait partie des écrivains portugais invités par le ministère de la Culture. Et j'ai découvert cet homme extraordinaire, qui est à la fois curieux de tout, avec une intelligence même supérieure, qui était capable de qui était un poète aussi des idées. J'ai souvent considéré que à la liste des poètes portugais qui ont été publiés à l'Escampette, on pouvait ajouter aussi le nom d'Eduardo Lourenço, parce qu'il avait une manière finalement très poétique de penser. Donc voilà, c'est le deuxième livre publié par l'Escampette en 1992, après Saveur de Porto. C'est effectivement Montagne. Un texte magnifique, auquel Eduardo, je crois, était extrêmement attaché lui-même. L'un des rares textes, peut-être le seul d'ailleurs, qu'il a écrit en français, et qui est un texte dédié à Montaigne, que je lui avais demandé. Et ça a été le deuxième livre de l'Escampette, donc pour commémorer le 400e anniversaire de la mort de Montaigne. Donc voilà. Et l'aventure avec le Portugal a connu une nouvelle étape avec ce deuxième livre, avant l'arrivée des poètes Alberto et Nuno Judis en 1993.
Alors justement, parce que vous avez, ouvert des grandes portes à la poésie portugaise, particulièrement Alberto. Et c'est étonnant parce qu'il y a pas mal de monde qui méconnaît complètement Alberto. Même au Portugal, je pense qu'il n'est pas reconnu.
Ah bon?
C'est l'impression que j'ai. Bon, c'est peut-être fausse, mais enfin. Mais ça, c'était aussi une rencontre avec une poésie, Albert.
Ça a été à la fois une rencontre avec, une œuvre littéraire majeure, me semble-t-il, du XXe siècle au Portugal, pour ce que je peux en juger, parce qu'encore une fois, je suis une amatrice ou un amateur, au sens où j'aime, mais je suis pas une spécialiste, je me prétends pas spécialiste, mais bon, j'ai quand même un peu côtoyé la littérature et la poésie portugaise, et je pense pouvoir affirmer qu'Alberto fait partie, de mon point de vue, des très grands. Ça a été une rencontre avec une œuvre, mais aussi avec un être humain, comme avec Eduardo Lourenço, dans les deux cas. Nous sommes devenus très amis. Claude Rouquet est devenu également très ami avec Alberto. Et l'Escampette l'a publié avec passion. À partir de 1993, je l'avais invité à participer au Carrefour des littératures, qui est le festival de littérature dont je m'occupais à cette époque-là à Bordeaux et dans l'ancienne Aquitaine. Et il y a eu immédiatement, en l'entendant lire ses textes en portugais, et puis avec quelques traductions qui avaient été établies pour l'occasion, l'envie de le publier. Et puis jusqu'à son décès le 13 juin 1997, je n'oublierai jamais cette date parce que j'ai vraiment perdu, je considère que j'ai perdu presque un frère ou un très grand ami. L'Escampette a publié des textes d'Alberto et a également publié encore post-mortem certains de ses poèmes. Et nous restons très très attachés à cette œuvre et nous lui rendrons hommage à travers sa poésie qui reste vivante, le 13 juin prochain, à l'occasion du 30e anniversaire de la maison d'édition, nous rendrons hommage à Alberto et aussi en présence de l'autre écrivain, et également devenu un ami et autre très grand poète du Portugal, Nuno Judis, qui a été l'autre poète publié en 1993 avec Alberto, sont les deux premiers à avoir commencer à constituer cette collection dédiée à la poésie portugaise à l'Escampette.
Voilà, et c'est quelques années plus tard que Nuno Judis a été publié chez Gallimard dans une collection extraordinaire, c'est la poésie.
Exactement, mais l'Escampette sonore est très fière d'avoir était le premier éditeur de Nuno Judice en France en 1993, Les degrés du regard, un livre qui est désormais épuisé. Mais il y a un nouveau livre de Nuno Judice qui a été publié en 2018, après le décès de Claude Rouquet, lorsque j'ai décidé de ne pas laisser mourir la maison d'édition et de reprendre les rênes, aidé d'un ami, lui-même écrivain, qui a des liens très forts aussi, qui entretient des liens très forts avec le Portugal, puisqu'il y a vécu plusieurs années, il a dirigé le réseau des alliances françaises depuis Lisbonne, Vincent Jacques. Et donc c'est maintenant avec Vincent Jacques que je fais vivre l'escampette depuis 2017, et nous avons eu le bonheur de republier Nuno Judice, un très beau livre qui permet un parcours dans l'œuvre Nuno Judice de 40 années d'œuvres poétiques, oui. D'écriture, qui s'appelle Le nom de l'amour. Et voilà, j'invite, et dans une très très belle traduction de Max de Carvalho, qui est franco-brésilien et qui lui-même poète de langue française, et qui nous a offert une très très belle traduction de ce nouveau livre de Nuno Judice. Je salue aussi tous les traducteurs. Bien sûr, Michel Chandaigne, qui a été le premier traducteur justement de Nuno Judice à l'escampette, et Alberto, voilà. Donc n'oublions pas les traducteurs aussi.
C'est très important, voilà. Surtout au niveau de la poésie, parce que
exactement.
Là, il faut avoir une sensibilité. Alors, aujourd'hui, l'escampette, apparemment, vous ouvrez encore d'autres sorties. Je ne parle pas des portes, mais des... vous diversifiez un peu vos publications.
Alors, la littérature reste au cœur de notre aventure éditoriale, hein, donc sous la direction maintenant de Vincent Jacques. Et nous allons d'ailleurs reprendre je tiens vraiment à réactiver plus fortement le lien avec le Portugal, le réactiver, à nouveau publier de la poésie des écrivains portugais dans les années qui viennent. Et puis à côté de la littérature, nous ouvrons effectivement de quelques chemins de traverse nouveaux, avec des livres qui sont des ouvrages en lien avec des questions sociétales, environnementales, des questions qu'on se pose aujourd'hui au XXIe siècle, la biodiversité, le climat, l'alimentation. Et ça, c'est très lié à l'installation de l'escampette dans cette très jolie commune de la Vienne, où j'invite tout le monde à venir nous retrouver pour le 30e anniversaire, donc le week-end du 12 et du 13 juin prochain. J'espère que tout ira mieux. La crise sanitaire, ce sera qu'on pourra fêter ce 30e anniversaire avec des manifestations et en présence donc d'écrivains. Il y a un salon du livre à Montmorillon, donc c'est cette commune de la Vienne à l'est de Poitiers qui est en train d'être réinventée par la nouvelle municipalité. Ça sera une très très belle, un très beau week-end dédié à la littérature, et donc en particulier à l'escampette, et en particulier à la littérature portugaise et à la culture portugaise, puisque pendant deux jours, on va en quelque sorte fêter la Saint-Antoine à Montmorillon, le 12 et le 13 juin. Il y aura des écrivains, pas seulement des écrivains de l'escampette, il y aura Nuno Judice, mais il y aura Lydia Georges également. On parlera, il y aura du cinéma, Capitaine d'Avril sera le film de Marianne Medeiros, sera projeté en nocturne dans une séance donc en plein centre-ville vers 23h, du fado. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir à Montmorillon, enfin tous les amoureux de la littérature et du Portugal à venir à Montmorillon ces deux jours. Et donc les nouvelles publications dans le domaine plus sciences humaines, mais voilà, des sujets de société, c'est très en lien aussi avec cette commune et avec des associations locales qui font un travail magnifique. Un écomusée avec lequel nous avons publié le premier livre de la collection Saveurs et Territoires, qui est un éloge des butineuses pour rappeler combien les abeilles et les colonies d'abeilles sont menacées et le rôle qu'elles jouent pour nous notre vie sur Terre. Hein. Deuxième livre sur le goût d'un territoire, parce qu'on mange très bien dans cette partie de la France. Je reviens, vous voyez, saveur de Porto.
Voilà, c'est ça, voilà. Je pensais à ça, oui.
La boucle est bouclée, et j'ai en tête un saveur de Montmorillon, un peu sur le modèle de saveur de Porto, et comme ça, vous voyez, là, on restera très cohérent, même 30 ans après. Littérature, saveur, gourmandise, parce que la lecture, pour moi, c'est d'abord de la gourmandise, du plaisir, d'une manière d'être plus vivant et plus relié aux autres. Ça a toujours été ce qui m'a guidée dans mon engagement en faveur des livres et de la lecture.
Alors, Sylviane Sambord, vos livres sont disponibles dans les librairies indépendantes,
oui.
Sont en France, Belgique,
oui.
Et Suisse.
Oui.
Alors, justement, alors les librairies, apparemment pour le gouvernement français, la culture n'était pas essentielle. Les librairies étaient fermées. En Belgique, un membre du gouvernement a dit « la culture, c'est un bien essentiel ». Comment est-ce que vous avez vécu cette période ?
Très tristement, de ce point de vue-là, bon, d'autres points de vue aussi, parce que la période est éprouvante depuis mars dernier, mais je trouve, effectivement, je fais partie des personnes qui ne comprennent pas et qui ne comprennent pas que des lieux culturels tels que les librairies aient pu être, heureusement elles sont rouvertes, mais que des théâtres soient encore fermés, que des musées soient encore fermés. Je crois qu'on a vraiment besoin, nos nourritures ne sont pas que matérielles, et certes je suis gourmande, j'aime manger, boire, et la preuve, je prépare un livre sur le bien manger et l'alimentation, les nouveaux modèles agricoles, les circuits courts, hein, tous ces... ces éleveurs, agriculteurs qui inventent un nouveau mode aussi enfin une nouvelle manière de concevoir l'agriculture. Mais on a besoin aussi de nourriture spirituelle, poétique, littéraire, culturelle, tout autant. Et je fais vraiment partie des personnes qui ne comprennent pas cette triste exception, enfin peut-être pas exception parce qu'il y a d'autres pays, mais enfin qu'on n'ait pas montré l'exemple en France comme d'autres pays l'ont montré en gardant ces lieux culturels ouverts.
Oui, parce que j'ai trouvé une expression, on parlait de l'exception culturelle française. Et maintenant, on peut parler qu'à un moment donné, il y avait l'exclusion culturelle française.
Oui, exactement. Et je pense, et vraiment, je à titre personnel, et puis aussi pour notre communauté, humaine que nous dans ce pays, j'espère que nous allons pouvoir retrouver bien vite le chemin des théâtres, des cinémas, j'ai beaucoup d'amis comédiens, lecteurs. Certains seront d'ailleurs, je l'espère bien, à Montmorillon pour des lectures. La poésie, il faut l'entendre aussi. Donc je vais inviter des comédiens et des comédiennes à venir participer à ces rencontres. Et tous ces gens-là souffrent, comme nous souffrons, les uns et les autres, de ne pouvoir les retrouver soit sur des plans, enfin, dans des théâtres ou dans des salles de cinéma ou dans des salles de concert. Je pense pas qu'il y ait plus de risques dans ces lieux qui ont fait d'immenses efforts en plus pour protéger justement les publics qui viennent d'assister ou qui venaient assister à des spectacles ou à des représentations.
Oui, d'ailleurs, des représentations, spectacles, on voit dans le supermarché les gens les uns sur les autres.
Exactement.
Revenons un petit peu aux saveurs. Bon, il y avait saveurs de Porto. Alors, je pense que vous avez quand même une particularité, c'est que les livres de l'Escampette sont disponibles dans des commerces alimentaires de proximité de Montmorillon, c'est vrai ?
Bah oui, parce que je continue ma bataille, vous savez, ça fait plus de 30 ans que je me bats je me battais avec le Carrefour des littératures pour amener au plus près des personnes, là où elles vivent, justement, cette invitation à la découverte, à la lecture, voilà. Et là, je vis maintenant en milieu rural, le sud de la Vienne, très beau département, tout près de la Haute-Vienne, du Limousin. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de librairies. Et il faut aller à Poitiers, souvent, pour trouver de vraies librairie. Et donc, en m'inspirant de mes amis, là, ces agriculteurs qui inventent de nouveaux modèles, et également en circuit court pour commercialiser leur production, en m'inspirant de ce qu'ils font, je suis en train d'organiser un petit marché local aussi pour l'escampette et amener des livres de l'escampette, de la poésie, dans des épiceries. Alors il y a des épiceries bio, des épiceries de producteurs, il y a des épiceries multiservices dans des villages, des restaurants qui ont fermé, qui ne peuvent pas ouvrir et qui ont transformé leur restaurant. Il y a un restaurant qui s'appelle le Temps des Cerises, pas loin de Montmorillon, et qui vend les productions de là aussi d'agriculteurs locaux. Et donc on a mis des livres en plus. Voilà, et on est en train de cette manière-là, en plus du beau travail que réalise notre diffuseur-distributeur Les Belles Lettres, qui porte nos livres et les livres de l'escampette dans les librairies de France, de Belgique, de Suisse. Et voilà, et on est en train d'organiser un marché comme ça en circuit court, local, pour que des personnes qui n'ont pas forcément toujours une librairie dans leur proximité puissent rencontrer de la littérature de qualité et puis les livres de notre collection Saveurs et Territoires sur les abeilles, sur le bien manger et ceux qui suivront bientôt Saveurs de Montmorillon. Mais pour l'instant, on a déjà Saveurs de Porto.
Sylviane Sambor, merci et surtout, vous pouvez commander les livres directement aux éditeurs, aux librairies. Oubliez, commander des choses. Je ne cite pas le nom.
Il y a un site internet, alors, qui n'est pas un site marchand, mais sur lequel on peut, en revanche, mieux connaître nos productions. Donc, j'invite aussi tout le monde à aller voir notre site internet, où il y a un onglet spécialement pour le Portugal. Donc, on peut trouver d'un seul clic tous les livres de la trentaine d'écrivains, poètes surtout, publiés à l'escampette et traduits du portugais.
Sylviane Sambor, merci. On se donne rendez-vous au début du mois de juin.
Exactement. D'accord, pour fêter les 30 ans.
Merci Sylviane Sambor.
Merci beaucoup.
Merci.
Et
un grand bonjour.
Et
de
bonne année à tout le monde.
Merci. E estamos a chegar ao fim. Obrigado, comenta Manuel Alexandre. Voltaremos aqui, espero bem, na próxima semana, dia 24. Mas para já vou-vos deixar com música. Amísia, o tema Porto Sentido, foi pedido pela Sylviane Sambor. Bem-ajam e até para a semana.
Ver-te assim abandonado. nesse timbre para santo, nesse teu jeito fechado.
Semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au teint si clair. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves, tant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était chouette pour qui savait y faire. Une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait le premier baigneur à tâter du côté de son cœur en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. Les filles du bord de mer. C'était chouette pour qui savait y faire. Lui pardonnant cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait malingre. Puis un beau jour j'en ai eu marre, c'était pire que la mer à boire. Je l'ai refilé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur. C'était chouette, les filles du bord de.